Bon, alors, le sujet, c'est la médisance, outil des faibles. Alors, je reprends le texte qu'on a lu. Il vous a été interdit de commettre le meurtre ou l'adultère, de vous livrer à la médisance ou à la calomnie. Évitez donc ce qui a été prohibé dans les tablettes et les livres saints. Alors, il y a plusieurs choses intéressantes là. Et une des choses les plus intéressantes, c'est de voir où ça vient dans le Ketav Yagdash, qui est le livre des lois de Baha'u'llah. La première loi qui est donnée dans le Ketav Yagdash, c'est la loi de prière, la prière obligatoire. Et le deuxième, c'est le jeûne. Et puis, Baha'u'llah a toujours dit que le jeûne et la prière sont les deux piliers de la religion, que ça fait partie de toute religion. Ça a toujours fait partie, c'est les deux piliers, c'est la prière et le jeûne. Donc, c'est les premières deux prescriptions dans le Ketav Yagdash, ça rapporte à ces deux piliers de la religion. Mais la première loi sociale, enfin, si vous voulez, qu'il donne, parce que ce sont des lois pour l'individu, c'est l'individu qui prie, c'est l'individu qui jeûne ou non. Donc la première loi sociale, c'est dans ce paragraphe. Tout d'un coup, il dit tout simplement le meurtre, l'adultère, la médisance et la calomnie. Maintenant, donc ce sont quatre interdictions ou quatre lois. Trois de ces quatre sont déjà dans les 10 commandements de Moïse. Lequel? Ok? C'est ça, exactement. Le meurtre, tu ne tueras point, l'adultère, et la calomnie, c'est-à-dire faux témoignage, comme on dit bear false witness en anglais, mais c'est mentir, calomnie, c'est mentir. Donc, et ça date depuis 3000 ans, n'est-ce pas? Enfin, plus de 3000 ans, 3500 ans. Quand on a que les hommes, enfin, et puis les chrétiens ont repris les 10 commandements, il y a quelque chose de semblable aux 10 commandements dans à peu près toutes les religions. Il y a les 8 principes de Bouddha, par exemple, qui sont les bonnes actions, les bonnes paroles, les bonnes pensées, etc., en fait. Donc, il a à peu près les mêmes choses. Donc, la seule chose qui est nouvelle par rapport à ces choses-là, dans la foi bahaïe, c'est la médisance. Alors, donc, je pose la question, pourquoi la médisance et pourquoi maintenant? C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'aucun prophète avant Baha'u'llah n'a interdit la médisance? Je ne veux pas du tout dire que d'autres prophètes n'ont approuvé la médisance, mais simplement, comme l'égalité de l'homme et de la femme, un autre principe de la foi bahaïe, les prophètes avant Baha'u'llah n'ont tout simplement pas parlé de ça. Jésus n'a pas parlé de ça. Et comme nous savons, les chrétiens encore aujourd'hui, la plupart, certainement des intégristes, ont la notion qui est véhiculée par Paul, que les femmes doivent être soumises à leur mari, que la femme doit être subordonnée à l'homme. Les musulmans, ben, c'est évident, ils ont la polygamie et tout ça, la femme est voilée, c'est évident qu'il n'y a pas d'égalité de droit en islam. Et d'ailleurs, dans toutes les religions du passé, la femme avait une position différente et inférieure à l'homme. Encore une fois, je ne prétends pas que c'est les prophètes qui ont enseigné ces choses-là, mais par le silence sur ce fait-là, ils tacitement, enfin, laissent aller la chose. Alors, donc, pourquoi? Mais on peut comprendre, disons, du point de vue de l'évolution de la structure sociale, pourquoi une chose comme l'égalité des sexes, parce qu'il y a quand même une division de travail entre l'homme et la femme et tout ça, et dans des conditions primitives de société, peut-être il fallait préserver cette division de travail très forte entre l'homme et la femme. La même chose pour l'esclavage. Il n'y a pas un prophète avant Baha'u'llah qui a aboli l'esclavage. Encore une fois, les prophètes n'ont pas approuvé l'esclavage, et simplement, ils se sont tous sur cette question. Et encore une fois, on peut peut-être faire appel à l'évolution sociale, que dans certaines sociétés anciennes, c'était pratiquement impossible d'avoir une économie à un certain niveau sans avoir des gens qui produisaient plus qu'ils ne consommaient. Mais la médisance, c'est quand même une chose personnelle, c'est-à-dire que c'est vraiment l'abstention de la médisance est un caractère personnel, une propriété personnelle de l'individu qui aurait pu certainement être interdite par Moïse ou Jésus. Et pourquoi? Et non seulement cela, mais Baha'u'llah fait un très très grand cas de médisance. Dans un autre de ses écrits, dans le livre de la certitude, il dit que ça tue l'âme, que ça suffoque l'esprit. Il dit le meurtre ne tue que le corps, mais la médisance tue l'âme. Donc il fait presque l'équivalent moral entre le meurtre et la médisance. Et il dit les effets peuvent durer pendant 100 ans de la médisance, etc. Donc il fait, c'est pas juste une petite chose, c'est une chose très centrale dans la foi bahaï, comme toute bahaï connaît. C'est une poison mortelle. Donc, encore une fois, c'est pas juste un à côté, c'est une des lois les plus, disons, les plus centrales au caractère moral de la communauté bahaï. Alors, donc je pose la question, pourquoi? Pourquoi si importante et pourquoi maintenant et pas avant? Si c'est tellement important d'éviter la médisance, pourquoi Jésus ou Mohammed n'avaient pas interdit la médisance? De la même façon, certainement, Mohammed a coupé, dans le Coran, c'est dit de couper la main d'un voleur s'il vole trois fois. Pour l'adultère, et la, par exemple, il a la peine de mort pour l'adultère. Même chose pour le meurtre, etc. Donc, c'est des lois très strictes. Il aurait peut-être dit, mais si vous faites de la médisance trois fois, on va vous couper la langue, je ne sais pas quoi. En tout cas, il aurait certainement pu instaurer une loi tellement forte que les gens auraient certainement se seraient abstenus de la médisance par crainte de punition. Alors, moi, je trouve que la réponse à cette interrogation se trouve dans une autre citation de Baha'u'llah, qui est juste à côté de vous, c'est les pages blanches, là. Et, alors, c'est un passage que j'ai lu à plusieurs reprises, dans différents contextes. Et c'est la traduction est une traduction maison parce que ce texte, tant que je sache, n'a pas été officiellement traduit en français. Donc c'est une traduction maison à partir de l'anglais. Et là, on a dit la chose suivante. Il dit, bon, rappelons que le but avoué de la foi bahaï, c'est l'unité. OK? Donc, Jésus a parlé de l'amour, et Mahomet, la soumission envers Dieu, et Bouddha de la renonciation, et Moïse, la loi, la justice. Et Baha'u'llah parle de l'unité, c'est le thème de la foi bahaï, l'unité. Donc, on peut supposer que l'interdiction de, faute d'interdiction de médisance, a peut-être quelque chose et sa centralité dans la foi a quelque chose avec ce but de la foi qui est l'unité. Et c'est ce que je prétends. Alors, on va voir. Il dit, et parmi les royaumes de l'unité est l'unité de rang et de grade. Donc, il parle de différentes unités. Il le dit, parmi ces unités, il a l'unité de rang et de grade. Cette unité contribue à l'exaltation de la cause, la glorifiant chez tous les peuples. Dès lors que la recherche de la préférence et de la distinction est entrée en jeu, le monde a été dévasté. il est devenu désolé. Donc il dit que la cause des injustices du passé, c'était la recherche de la préférence et de la distinction. Et que le résultat, c'était le monde a été dévasté et est devenu désolé, c'est très fort. Ceux qui ont bu de l'océan de la parole divine et fixé leur regard sur le royaume de gloire devraient se considérer comme étant du même niveau et du même rang que les autres. Donc, ceux qui prétendent être Baha'i, il dit ceux qui ont bu la parole divine et tout ça, et c'est une référence poétique aux adeptes, à ses adeptes. Donc ces gens-là doivent se considérer comme du même niveau et de même rang que les autres. Pas simplement les autres Baha'i, mais tout le monde d'autres. Si cette condition était définitivement établie et irréfutablement démontrée grâce au pouvoir de la foi et la force de Dieu, le monde deviendrait sûrement comme le paradis d'Abra. Maintenant, le paradis d'Abra, c'est aussi une métaphore pour le royaume de Dieu. Enfin, Jésus parle dans la Bible de le royaume de Dieu sur terre, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Le ciel est donc le paradis. Le ciel et le paradis, c'est là où la volonté de Dieu est faite. OK? Parce que Dieu veut le bien, donc le bien est fait. On a la paix et le bonheur quand tout le monde est soumis à la volonté de Dieu. Donc, le paradis d'Abra, c'est la métaphore qu'utilise Baha'u'llah pour le ciel ou le royaume de Dieu sur terre. Donc, ce monde deviendra le lieu où la volonté de Dieu est faite. Et irrévocablement et définitivement, si tout le monde se considère comme étant du même niveau et du même rang que les autres. C'est la précondition essentielle pour l'établissement de l'unité. En effet, l'homme est noble car chacun est le dépositaire du signe de Dieu. Néanmoins, c'est une grave transgression de se considérer supérieur aux autres quant à sa connaissance, son accomplissement ou sa vertu, ou encore de s'exalter ou de chercher la préférence sur les autres. Grande la bénédiction de ceux qui sont parés de l'ornement de cette unité et qui ont été gracieusement confirmés par Dieu. Donc, maintenant, encore une fois, remarquez bien une chose. On ne dit pas que c'est le fait de la distinction qui est cause de désunion. Il dit, c'est la recherche de se considérer comme supérieur. C'est la recherche du pouvoir. Ce n'est pas le fait des différences, les différences de pouvoir ou de capacité. Il dit, en effet, l'homme est noble car chacun est le dépositaire du signe de Dieu. Nous avons tous des qualités. Nous avons tous des pouvoirs. Cependant, c'est une grave transgression de se considérer supérieur aux autres quant à sa connaissance, son accomplissement ou sa vertu, ou encore de s'exalter ou de chercher la préférence sur les autres. Je pense que ça règle à peu près tous les cas que je pourrais penser. D'abord, il mentionne les choses que nous considérons généralement comme distinguant une personne, n'est-ce pas? C'est-à-dire si une personne a une plus grande connaissance qu'une autre, on le respecte. S'il a un accomplissement que d'autres, il a réussi dans les affaires, ou il a réussi dans sa profession, ou il a réussi sa famille, ou sa vertu, s'il est plus vertueux que les autres, bien, on considère que c'est les marques d'un homme supérieur, n'est-ce pas? Enfin, bon. Alors, Baha'u'llah ne dit pas le contraire, mais il dit que c'est une grave transgression que de se considérer supérieur. Donc, Baha'u'llah ne dit pas qu'il n'y a pas de gens supérieurs, il dit que ces gens supérieurs ne sont sûrement pas qui se pensent supérieurs. OK? Donc, si on veut poser la question, on a une petite règle de pouce. Si vous demandez, est-ce que ce type-là peut être une de ces personnes supérieures dont parle Baha'u'llah, S'il prend pour un autre, il ne l'est pas. Ça, c'est sûr et certain. C'est ça. Alors, donc, dans ce passage, Baha'u'llah identifie la recherche du pouvoir comme la racine ultime des injustices. La recherche de préférence, distinction, le pouvoir sur les autres. Alors, donc, pour établir l'unité, Baha'u'llah l'a déjà dit, l'unité est basée sur la justice. Il dit, la paix est basée sur l'unité, et l'unité est basée sur la justice. Donc, la moyenne vers l'unité, qui est le but, c'est la justice. Il faut établir la justice. Et qu'est-ce qui est contraire à la justice? C'est le non-respect des principes, c'est-à-dire la transgression des principes dans la recherche du pouvoir des dominants sur les autres. C'est-à-dire, au lieu de vous respecter, vous traiter comme mon égal, comme un autre être humain, que nous avons les mêmes droits et privilèges chacun, n'est-ce pas, avec la réciprocité, je cherche un pouvoir sur vous pour vous manipuler, pour vous tirer quelque chose, etc. Alors, c'est injuste, je vous traite injustement, vous êtes victime, je vous victimise. Donc, la victimisation, c'est l'opposé de l'injustice. La victimisation, c'est un fait d'abus de pouvoir. Donc, et la recherche du pouvoir est un abus de pouvoir. Donc, la racine de l'injustice, c'est la poursuite de pouvoir comme un but en soi. Alors, examinons, juste pour quelques instants, ce phénomène de recherche de pouvoir. Comment est-ce que ça se fait? Bon, alors ça se fait par plusieurs façons. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des gens qui sont forts, et donc qui gagnent le pouvoir par leur agressivité. Simplement, ils sont des gens qu'on peut qualifier de réussis et tout ça. Ce sont comme des hommes politiques qui réussissent, qui se font élire, ou des tyrans, ou des dictateurs, ou des chefs de compagnie, ou des gens, enfin comme Pellado, enfin Pierre Pellado avait dit une fois, c'est l'industriel québécois, enfin, qui est à Montréal, qui il avait dit, je ne suis pas arrivé là où je suis sans marcher sur le dos des autres, n'est-ce pas? Nous savons tous qu'il est impossible de réussir dans cette société, en tout cas au-delà d'un certain niveau de réussite, sans, comme Pellardo dit, marcher sur le dos des autres. Parce que c'est une compétition. Et il faut éliminer les compétiteurs. C'est-à-dire, si vous voulez gagner, vous ne gagnez pas simplement dans un vide, vous gagnez à défaut d'un autre qui ne gagne pas. OK? C'est ça. C'est ça la réussite dans la recherche du pouvoir. C'est l'élimination des autres. C'est la pyramide. Dans la pyramide, il y a juste la place en haut de la pyramide pour quelques personnes. Alors, donc, il y a ceux qui réussissent. Bon, dans la recherche du pouvoir, il y a deux choses. Soit vous réussissez à l'avoir, soit vous ne réussissez pas. Si vous cherchez le pouvoir et vous ne réussissez pas, vous êtes déprimé, frustré, ok? Parce que vous cherchez à avoir une chose que vous n'arrivez pas à avoir. Et donc, vous êtes malheureux. Aussi, vous vous sentez vulnérable parce que vous n'avez pas de pouvoir vis-à-vis des gens qui ont un pouvoir. Donc, vous vous sentez en quelque sorte comme victime potentielle des gens qui ont un pouvoir. Donc, il y a aussi la peur qui est liée au fait de la recherche de pouvoir. Mais, il y a aussi des gens qui réussissent à avoir le pouvoir. Ceux-là aussi ont peur. De quoi? Mais c'est évident que d'autres viennent leur arracher le pouvoir que eux ils ont arraché d'autres personnes. Et d'ailleurs, et l'histoire monte, et la psychologie monte, et tout ça, que les gens, plus que les gens mentent dans ce pyramide de pouvoir, plus qu'ils ont peur. C'est-à-dire, on pourrait penser que les gens qui sentent le plus de peur, c'est des gens qui se voient impuissants ou qui sont impuissants. Mais ce n'est pas vrai du tout, c'est juste le contraire. Plus que les gens ont du pouvoir, plus ils ont peur, ils sont paranoïaques. Hitler et Staline étaient les gens les plus paranoïaques qu'on connaît de l'histoire. Tous les empereurs romains étaient paranoïaques à l'impossible. Les sultans de Turquie, par exemple, ils étaient tous des paranoïaques. Le dernier sultan, enfin, Abdulaziz, au temps de Baha'u'llah, il avait un pistolet sur lui à tout moment, et il était interdit de s'approcher de lui plus de, je ne sais pas, mettons, 20 pieds. Si quelqu'un, par erreur, franchissait ce cercle imaginaire de 20 pieds, il tirait son pistolet et le tuait. Ça, c'était le degré de paranoïa d'Abdulaziz, n'est-ce pas, comme ça, juste une personne faisait un geste dans ce sens. Il était tellement paranoïaque. Et Staline, ben, c'est très bien connu, Hitler, la même chose. Donc, tout le monde a peur. Dans ce système basé sur la recherche du pouvoir, tout le monde a peur. Ceux qui n'ont pas le pouvoir ont peur de ceux qui ont le pouvoir. Ceux qui ont le pouvoir ont peur de ceux qui vont venir de quelque part leur arracher le pouvoir. Maintenant, il y a différentes stratégies dans cette recherche de pouvoir. Une stratégie, c'est la confrontation, tout simplement. C'est par l'agressivité pure et simple. On va droit au but, et les gens qui font ça se sentent puissants. Qu'il le soit ou non, ça va être démontré par la suite. Mais les gens qui, comme ça, sont des chercheurs avérés de pouvoir, sont des gens qui se sentent puissants. Mais il y a des gens qui savent ou qui sentent qu'ils ne sont pas puissants. Mais ces gens-là, dans un système basé sur la recherche de pouvoir, ces gens-là, quand même, recherchent le pouvoir. Alors, quelle stratégie est-ce qu'une personne faible peut utiliser pour chercher le pouvoir? De cela où je viens aux questions de médisance, la médisance a toujours été l'outil de choix des faibles pour mater le pouvoir des forts. C'est-à-dire, si vous êtes devant une personne plus forte que vous, votre patron, par exemple, ou je ne sais pas quoi, vous n'osez pas, ce n'est pas une bonne idée de le confronter directement, n'est-ce pas? Parce qu'il est plus puissant que vous. Si vous le confrontez carrément, si vous défiez son pouvoir, vous dites, mais voilà, je n'accepte pas votre directive, je n'accepte pas, etc., ben vous allez perdre. Parce que c'est lui qui a le pouvoir, ça c'est un fait, et vous ne l'avez pas, il peut vous congédier, il peut vous imposer une peine, il peut vous endetter de toutes sortes de façons. Donc, si vous êtes le moindrement intelligent, vous ne faites pas ça. Mais quand même, dans la mesure que le patron abuse de son pouvoir, vous allez ressentir la victimisation et vous allez être motivé à diminuer son pouvoir sur vous. Et une bonne façon de faire, de diminuer le pouvoir de quelqu'un sans le confronter, c'est la médisance. Vous le critiquez, vous criez, vous créez une ambiance de critique dans son dos qui soumine son autorité et donc son pouvoir aux yeux des autres. Et ça marche très bien, ça marche très bien. Enfin, il y a des gens qui ont perdu leur carrière et tout, qui ont été descendus par les commérages, par les médisances. Par les calomnies aussi, enfin je ne dis pas, mais en particulier la médisance, parce que la calomnie, c'est quand même plutôt une chose ouverte, n'est-ce pas? Il faut prendre responsabilité pour une calomnie. Si je raconte quelque chose qui n'est pas vrai sur vous, je peux avoir des comptes à rendre à quelqu'un qui me confronte avec la vérité, mais vous avez dit qu'elle a fait telle ou telle chose, mais j'étais là à ce moment-là, elle n'a pas fait ça. Donc vous mentez. Donc la calomnie, ça rebondit parfois sur le menteur, mais la médisance, c'est beaucoup plus sournoise, n'est-ce pas? Vous commencez la chose et puis vous vous en allez, vous laissez agir la médisance. Et on ne sait même pas que c'est vous qui a lancé la chose, n'est-ce pas? Et vous n'avez même pas besoin d'être un bon médiseur. Si vous avez des amis ou des gens qui sont des bons médiseurs, alors ça suffit de lancer une petite pétard et puis de vous en aller, n'est-ce pas? Et donc, c'est ce que je crois est la raison profonde pourquoi Baha'u'llah a interdit la médisance et en fait un tel cas. C'est parce que la médisance est l'outil des faibles pour mater le pouvoir des forts, ce qui rend tout le monde complicite dans ce jeu de pouvoir. Et qui rend tout le monde complicite dans le jeu de pouvoir. Autrement dit, ça encourage le jeu de pouvoir, parce que quand les gens voient que ah, ben, ça réussit par la médisance, on arrive à diminuer le pouvoir de quelqu'un, alors eux, ils cherchent le pouvoir aussi par la médisance, et puis donc tout le monde embarque dans le jeu. Autrement dit, Baha'u'llah dit que la précondition essentielle pour l'établissement du royaume de Dieu, c'est que chacun se considère comme étant du même niveau et du même rang que les autres. Il est impossible à une personne de se considérer comme étant du même rang et niveau des autres s'il est en train de critiquer et de défendre les autres, n'est-ce pas? Nous reconnaissons tous que la médisance, ça cherche à m'élever moi en défendant un autre. C'est-à-dire, il y a deux façons pour moi d'avancer en pouvoir. Une façon, c'est de m'élever, de gagner du pouvoir, mais l'autre, c'est de diminuer le pouvoir de l'autre. Et c'est ça la médisance. Ça nous donne plus de pouvoir en enlevant du pouvoir de l'autre, en descendant l'autre. Et donc, on voit maintenant pourquoi la médisance est tellement au cœur de tout le problème de l'établissement de l'unité, parce que ça nuit directement. C'est indirect en ce qui concerne la recherche de pouvoir, mais ce n'est pas du tout indirect en ce qui concerne l'unité. C'est-à-dire, ça porte atteinte directement à l'unité et à l'attitude d'humilité ou d'égalité, appelez ça comme vous voulez, que Baha'u'llah stipule est l'essentiel pour l'établissement du royaume de Dieu. J'aimerais juste dire encore deux mots et puis j'ai terminé. Un cas que j'ai traité dans d'autres discussions et que je ne veux pas traiter en détail, mais c'est juste pour donner un exemple, pour rendre ça encore plus évident. Remarquez qu'il y a une différence naturelle de pouvoir entre les hommes et les femmes. Encore une fois, c'est la même règle. L'homme peut réussir par la force même. Donc il est plutôt comme un chercheur de pouvoir. Et la femme, étant physiquement plus faible que l'homme, si elle est le moindrement intelligente, ne va pas contester directement le pouvoir de l'homme. Okay? Parce qu'elle va perdre. Elle va perdre. L'homme est plus fort. Si elle se met à contester, à confronter, dénoncer le pouvoir de l'homme, elle va tout simplement se faire écraser. Alors, qu'est-ce que les femmes font? Qu'est-ce que les femmes ont fait dans l'histoire pour se soustraire au pouvoir abusif des hommes? C'est l'indirection, c'est la médisance. Et c'est cette tradition qui dit ben, que les femmes sont des bavardeurs, n'est-ce pas, des bavardeuses, qu'elles bavardent, mon Dieu, comme les femmes bavardent et tout ça, et puis ça. Les hommes aussi, bien sûr, mais traditionnellement, il y a cette culture féminine qui est axé sur le bavardage, qui en réalité c'est la médisance, n'est-ce pas? Et je pense que ça dérive du fait que les femmes, c'est l'outil des faibles dans cette différence de pouvoir que les femmes utilisent pour se soustraire au pouvoir des hommes sans devoir les confronter. C'est juste un exemple. Ce n'est pas de dire que les femmes sont pires que les autres, c'est simplement de dire que la stratégie qu'on choisit, c'est selon ses capacités. L'homme n'est pas mieux parce qu'il utilise une stratégie plus brutale que la médisance, parce qu'il s'impose simplement physiquement. Ce n'est pas plus louable, mais je dis, tout le monde donc, joue le jeu de pouvoir. Donc, la seule façon de sortir de tout ça, c'est qu'on renonce vraiment à la recherche de pouvoir. Et s'abstenir de la médisance est une discipline qui nous aide, nous, à renoncer à la recherche de pouvoir. Juste un autre exemple que je trouvais ça drôle, enfin, c'est parce que c'est tellement pertinent, mais à la Radio-Canada, ils ont un programme maintenant qui s'appelle Workology. C'est une demi-heure, je ne sais pas qui a conçu ça, mais c'est tout sur, enfin, les anecdotes, etc., du travail, et bon. Ils ont différents thèmes, ils invitent les gens à une ligne ouverte, enfin, à raconter des anecdotes qu'ils ont vécues par rapport à différentes choses. Et puis, ils avaient justement, une fois, le thème, c'était les patrons abusifs. Enfin, les patrons, il y avait un patron qui était vraiment compulsif, obsessif, invivable, et qui, par exemple, lui demandait de faire des heures supplémentaires, de rester le soir, toujours à la dernière minute, toujours 5 minutes avant, est-ce que tu peux rester ce soir, etc. Mais il devait être au travail à la même heure le lendemain, etc., etc. Alors, une fois qu'elle avait fait ça, le lendemain, elle arrive à la bonne heure, elle est là, et le patron lui dit, non, je m'excuse, mais c'est vrai ce qu'elle a dit. Il dit, j'aimerais vous parler de quelque chose. Elle dit, oui, qu'est-ce qu'il a dit? Après que vous êtes parti hier soir, j'ai fouillé dans votre bureau. Et j'ai trouvé que vous avez beaucoup de crayons et de stylos. Et oui, j'ai des crayons, des stylos. Et vous avez certaines qui pointent dans une direction et certaines qui pointent dans l'autre direction. Alors, j'aimerais vous demander désormais de vous assurer, en quittant le bureau, que tous vos stylos et plumes pointent dans la même direction. Alors, oui, c'était vrai. Et la femme a dit, j'ai pris un souffle, j'ai compté à 10, et j'ai pris un stylo et je l'ai enfoncé dans sa poitrine. Oh. Et j'ai quitté l'emploi.
Le patron était
là. Oui. Oui, elle l'a enfoncé dans sa poitrine, elle ne l'a pas tué, mais... elle a pointé dans la bonne direction.
Qu'on va dire quelque chose de très
smart. Mais elle a compté à 10, elle dit qu'elle ne pouvait plus.
Elle n'aurait
pas compté. Non, mais ça, c'est un exemple d'abus de pouvoir, n'est-ce pas? Enfin, et une réaction pas tout à fait créatrice, mais...
Il y a eu des erreurs. C'est